Ce matin, on va poursuivre l'étude qu'on a commencée. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en train d'étudier le chapitre 17 de l'évangile de Jean, la dernière prière de Jésus. Et en fait, dans cette prière de Jésus, cette prière finale, il y a 7 sujets de prière. On en a déjà vu 5. Alors si vous voulez savoir les 5, vous allez sur le site du CEP. Et vous pouvez écouter les prédications qui ont déjà été données. Ce matin, on va lire Jean 17, versets 20 à 23. Je pense qu'on a ici un sujet de prière qui est vraiment cher au cœur du Seigneur. C'est le sujet de l'unité des enfants de Dieu entre eux. Jean 17, 20 à 23. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. On a vu que la prière de Jésus, c'est ce qui s'appelle la prière sacerdotale, c'est la prière du grand prêtre Jésus. Et cette prière, on peut dire, c'est celle qu'il porte dans son cœur peu avant son départ. Est-ce qu'il a à cœur, il prie aujourd'hui, en tout cas dans cette prière, ce qu'il a à cœur pour nous, pour ses disciples. Et on voit que le regard de Jésus va déjà au-delà de la mort, de la croix, au-delà de la résurrection même, puisqu'il commence à prier non seulement pour les disciples, mais pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Jésus a la vision du peuple de Dieu dans sa globalité, après sa mort, après sa résurrection. Et il a pensé à toi, à moi, à nous. Et le sujet qui lui tient à cœur en pensant à la globalité de son peuple, c'est qu'il soit un, uni. Jésus, quand il était sur cette terre, il savait qu'il allait passer par le chemin difficile et nécessaire de la croix. Mais jamais il a perdu de vue le fruit de sa mort. Dans Jean 12, 24, il dit « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Je crois que c'est ce qui a donné la force à Jésus aussi d'aller jusqu'au bout. Il voyait la foule, les milliers, les millions d'hommes et de femmes de toutes les nations qui seraient son peuple, qui formeraient son Église, la nouvelle humanité qu'il allait créer. Jésus nous donne ici deux pistes qui nous aident à savoir comment est-ce que les hommes vont croire en lui. La première, elle se trouve dans le verset 20, où il dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, dit Jésus ». Il parle ici des 11 qui sont avec lui, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Verset 20. En fait, la foi en Jésus est engendrée par l'écoute, la proclamation de la parole de Jésus, la parole des disciples qui ont cru en Jésus. Des évangiles nous ont été donnés pour être l'outil efficace par lequel les gens peuvent connaître Jésus et croire en lui. Alors bien sûr, nous sommes appelés à vivre en tant que chrétiens selon la hauteur du statut qui nous est donné, mais nous ne devons jamais oublier que ce qui engendre la foi, c'est la parole du Christ, la parole des évangiles. Certes, notre témoignage est important, parce que notre témoignage, on peut dire, concrétise Pour les gens qui nous écoutent, comment est-ce que Jésus peut transformer une vie? Mais notre témoignage doit pointer vers la parole du Christ, vers l'Évangile. Et même si nous n'avons pas grand-chose à dire, peut-être qu'on n'a pas vécu une conversion spectaculaire ou qu'on n'a pas vécu de grands miracles dans notre vie, nous avons quelque chose à dire. Ce quelque chose se trouve dans les Évangiles. L'important, c'est que les gens découvrent le Jésus des Évangiles. Notre témoignage est là pour appuyer, comme Jean-Baptiste qui disait « Voici l'agneau de Dieu, allez vers lui !» Mais la parole qui porte du fruit, qui engendre la foi, c'est la parole de l'Évangile. Jean le dit dans sa première lettre, il dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. » Jean, on le voit, est encore dans l'émerveillement. Il réalise que la personne avec qui il a vécu en tant que disciple, qu'il a vu, qu'il a touché, avec qui il a mangé, c'était la parole de vie éternelle. La vie éternelle est venue dans la personne de Jésus. Et c'est lui que nous vous annonçons. La foi, dit Paul, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Je trouve extraordinaire que, malgré tous les siècles qui se sont écoulés, rien n'a pu détruire la parole de Dieu, la parole du témoignage de Jésus. Dieu a veillé à ce que cette parole nous parvienne et traverse toutes les générations, qu'elle soit traduite dans toutes les langues, pour que tous connaissent qui est Jésus. Et je crois que ça doit nous encourager à savoir que la puissance de Dieu se trouve dans ce message, dans cette parole. Quand on ouvre la parole de Dieu, qu'on aide les gens à découvrir Jésus, le Saint-Esprit peut agir. Et je te le dis, même si tu n'as pas grand-chose à dire, même si tu as l'impression que ta vie n'est pas à la hauteur, si tu fais connaître Jésus, tu fais le travail principal que Dieu te demande. Alors le premier miracle, le premier outil, on pourrait dire, que Dieu a mis entre nos mains pour que le monde croie, eh bien c'est la parole. Et il y en a un deuxième que Jésus souligne ici, c'est l'unité des chrétiens. Ce n'est pas pour eux seulement, donc au verset 20 on a vu qu'ils croient par ta parole, par la parole, leur parole, et il continue, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Donc l'unité des enfants de Dieu, ce n'est pas quelque chose de superficiel, ni d'optionnel, ni de secondaire. Ça fait partie des outils que Dieu utilise pour diriger les hommes vers lui et montrer ce que c'est le salut, la vie éternelle. En fait, il y a un miracle qui s'opère dans le cœur des enfants de Dieu qui fait qu'ils sont une communauté comme on n'en rencontre pas ailleurs. Et c'est comme ça que finalement Dieu convainc les hommes de la réalité du message dont ils sont porteurs. Nous sommes la démonstration que le salut est une réalité et qu'il peut transformer des vies. Et c'est pour cela que Jésus prie pour notre unité. C'est tellement important pour lui. Je rappelle un peu le schéma de la prière de Jésus. Jésus prie pour ses disciples. Ensuite, il prie pour ceux qui croiront en lui par leurs paroles. Ensuite, il prie pour que tous soient un. Jésus donne ensuite le modèle de l'unité. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous. On va parler de cela tout à l'heure. Et il montre le but, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors l'unité des chrétiens, qu'est-ce qu'elle est? De quoi est-elle faite? C'est un sujet vaste et complexe qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a suscité beaucoup d'efforts. Pendant des siècles, on a cru qu'il suffisait d'être une organisation unique, une seule Église, l'Église catholique universelle, pour que l'unité se fasse. Mais on voit bien que l'histoire le démontre assez fortement, que Jésus ne pensait pas à quelque chose d'organisationnel. Il ne suffit pas d'avoir une hiérarchie d'autorité pour maintenir un peuple dans l'unité. Ça n'a pas marché. Les guerres de religion internes au christianisme ont démontré que ce n'était pas la voie à laquelle Jésus pensait. Jésus montre que l'unité est relationnelle, puisqu'il cite comme modèle la relation qui existe entre le Père et le Fils. C'est l'unité relationnelle qui fait l'unité des chrétiens. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous. En fait, Jésus nous demande de regarder comment fonctionne sa relation avec le Père et de nous calquer dessus, en quelque sorte, en tant que peuple. Alors, il y aurait beaucoup à dire, et certainement je ne vais pas tout dire, de ce qui caractérise la relation de Jésus avec son Père. Rien que dans l'évangile de Jean, 90 fois Jésus parle de son Père, pour vous dire la relation intense qui existe entre le Père et lui. Mais je voudrais souligner surtout trois points de cette relation. D'abord, dans Jean 3, 35, Jésus dit « Le Père aime le Fils ». La relation entre le Père et le Fils est construite sur l'amour. Un amour sans partage, un amour entier. Et Jésus souligne que sans amour, il n'y a pas d'unité. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 20, Jésus dit « Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère ou sa sœur, c'est un menteur. On ne peut pas être frère et sœur et se haïr, ne pas s'aimer. » Je pense que l'amour est le point le plus important de la relation des chrétiens entre eux. C'est celui sur lequel nous serons certainement le plus attaqués. Et nous devons veiller à préserver l'amour. Ça passe par le pardon, par le service ensemble, par l'humilité, l'engagement mutuel, le soutien, parfois matériel, la prière, la patience, le support. Ce n'est pas pour rien qu'il y a 28 fois les uns les autres dans la Bible. 28 expressions qui nous parlent de moyens de consolider l'amour entre nous. Bien sûr, nous ne sommes pas dans la même intensité d'amour que le Père et le Fils. Il n'y a jamais eu de désaccord entre eux, de rupture. Mais Jésus souligne que la relation qu'il a avec son Père, c'est le modèle. Et ce modèle est fondé sur l'amour, vraiment. Le don du Fils au Père, le don de sa propre personne, l'un pour l'autre. C'est ça qui caractérise. C'est un amour sacrificiel. Certainement une expression que vous avez déjà entendue. La deuxième caractéristique de cette relation, c'est la communion d'action entre eux. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. C'est dans Jean 5, 17. Le Père et le Fils agissent ensemble. Il n'y a rien que le Fils ne fait en dehors de ce que le Père veut. Et c'est parce qu'ils ont agi ensemble que nous sommes sauvés. Le Père a donné le Fils est mort, comme le Père l'a voulu. Et ensuite, tous les deux ont donné l'Esprit, c'est ce que l'Évangile de Jean nous dit. Ils travaillent toujours ensemble. Et je crois que dans l'Église, on doit développer l'habitude de travailler ensemble. C'est c'est-à-dire d'être unis dans des projets, dans des engagements communs. On le voit dans la première église, acte 5, 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Il y a une unité de cœur et d'action, les deux. Et ils sont tellement unis dans le départ de l'Église qu'ils font tout ensemble, ils vivent ensemble, ils partagent tout ensemble. Alors c'est un modèle qui n'a jamais été reproduit à ce point-là. Je ne sais pas, peut-être. Hein. Mais en tout cas, ça indique quelque chose de l'efficacité du témoignage. Les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus avec une grande puissance. Pourquoi ? Parce que derrière, ben, les gens voyaient les chrétiens vivre ensemble, l'unité. Et bien sûr, quand les apôtres prenaient la parole pour témoigner de Jésus, c'était évident. La parole et l'unité des chrétiens s'allient pour donner une grande force au témoignage rendu à Jésus. Et on voit que tout au début de l'Église, le diable, la première chose qu'il a fait, c'est d'essayer de détruire cette unité. Vous vous rappelez d'Ananias et Saphira, hein ? Dans ce contexte où tout le monde vient volontairement de tout cœur apporter ses biens, eux, ils font un calcul, ils cachent des choses, ils mentent. Et je crois que le diable cherche toujours à détruire l'unité, ça c'est clair. Il sait que si l'unité n'est plus là, le témoignage perd de sa force. Un troisième aspect de la relation de Jésus avec son Père, c'est la complémentarité. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ils s'imitent mutuellement, mais ils se complètent aussi. Le Fils vit dans la dépendance du Père, il y a cette proximité. Et je crois que l'unité des chrétiens passe aussi par la proximité les uns des autres, mais de Dieu. Si nous sommes loin de Dieu, loin du Seigneur, eh bien l'unité n'est plus possible. C'est Billy Graham qui disait « Plus nous sommes distants de Jésus, plus nous le sommes de nos frères. » Mais l'inverse est vrai aussi, plus nous prenons de la distance avec nos frères, plus nous en prenons avec Jésus. Alors j'ai fait un petit dessin, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Vous voyez d'ici, tout le monde ? C'est une sorte de roue de vélo, vous voyez, avec au centre un moyeu là, et puis des points qui sont un peu dispersés sur chaque rayon. Alors si je vous posais la question, quels sont les points les plus près les uns des autres ? Ben, ceux qui sont le plus près du milieu, tout simplement. Hein ? Celui-là, il est loin de celui-là, mais ces deux-là, ils sont tout près. Ben, ça nous parle de la nécessité de notre proximité avec le Seigneur pour être proches les uns des autres. Alors nous sommes tous en Christ, comme ici, ils sont tous dans la roue. Hein. Mais nous sommes plus ou moins loin, plus ou moins près. Et c'est ça qui fait que nous nous sentons proches ou distants les uns des autres. Donc, de quoi est faite la relation, le modèle d'unité entre le Père et le Fils ? Eh bien, il y a une relation de cœur, une relation d'action, une communion d'action, et puis une complémentarité, et une proximité, une dépendance de Dieu ensemble. On peut être assis sur les mêmes bancs, chanter les mêmes chants, même signer la même confession de foi, être membre de la même union d'Église, mais ce n'est pas ça qui va garantir notre unité. C'est ce qui est dans notre cœur, dans notre esprit, dans nos pensées. La proximité que nous avons avec le Seigneur est entre nous. Alors Jésus va nous dire maintenant de quelle façon cette unité peut se faire. Et je pense qu'il y a Peut-être un verset qui vous a peut-être paru mystérieux ici, c'est le verset 22. Il dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Jésus nous a donné quelque chose qui rend possible que nous soyons un. Quelque chose qu'il avait lui, la gloire que tu m'as donnée. C'est quoi cette gloire ? Bien, quand on regarde l'Écriture, il y a plusieurs passages qui nous parlent de cette gloire particulière qu'avait Jésus, ici-bas. Je vais lire Jean 1, 14 d'abord, où il est dit « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » En fait, ce qu'il y avait de particulier chez Jésus, c'est que, en tant qu'homme, fils de Dieu devenu homme, il portait l'image de Dieu en lui. La gloire de Jésus, c'est d'être le reflet de son Père, l'empreinte exacte de la personne de Dieu. C'était sa gloire de fils, tout simplement. Et nous sommes aussi porteurs de la même gloire. Nous sommes devenus fils et filles de Dieu. C'est extraordinaire. Et c'est quand nous laissons le Seigneur nous transformer à son image que l'unité est rendue possible. Nous sommes appelés à refléter l'image de fils et de filles de Dieu. Paul le dit de nombreuses fois, « Parce que vous êtes fils, dans Galates 4, 5, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba », ça veut dire « Papa ». Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Alors le miracle de l'unité dans l'Église, il est possible parce que Dieu nous transforme à son image, en fils et filles de Dieu, par le Saint-Esprit. Il le dit dans 2 Corinthiens 3, l'apôtre Paul. « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » C'est vraiment le but premier du travail du Saint-Esprit, c'est de nous transformer de gloire en gloire, petit à petit, à l'image du Seigneur. Et bien sûr, plus nous ressemblons à Jésus, plus nous nous laissons corriger, transformer dans notre caractère, dans notre être, et bien plus l'unité se crée aussi entre nous. Alors c'est vrai que c'est vraiment un miracle extraordinaire, la communauté chrétienne. Par nature, nous sommes tous différents. Certains sont têtus, arrogants, de nature, d'autres sont plutôt timides, effacés. Certains ont une forte personnalité, d'autres sont plutôt des gens discrets. Certains se sont construits dans la souffrance. D'autres ont développé des réflexes de méfiance parce qu'ils ont souffert justement pour se protéger. Certains sont naïfs, ils croient tout ce qu'on leur dit, et ils se font berner. Et puis Dieu doit faire une communauté avec tout ça. Eh bien, il le fait parce qu'il nous prend tels que nous sommes, des pierres brutes, et commence à travailler pour guérir nos souffrances, pour transformer notre caractère, nous dire là, fais attention, ne te mets pas tant en avant, laisse parler les autres, apprends à servir. Et petit à petit, la communauté se crée comme ça. Mais ça passe par la transformation du cœur de chacun. Si quelqu'un est en Christ, dit Paul, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, ce que nous étions autrefois, est passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On doit vraiment bâtir sur cette réalité. Et je crois que si l'unité se fait difficilement, c'est parce que nous sommes lents à nous laisser corriger, transformer. On résiste à Dieu. On tient à ce qu'on est par nature. On ne veut pas qu'on touche à notre personne, mais le Seigneur veut toucher à notre personne pour nous transformer. Il ne peut pas le faire autrement. Est-ce que nous travaillons à l'unité? Est-ce que nous sommes d'accord de travailler à cela parce que c'est la volonté du Seigneur? On voit dans la Bible qu'il y a une chose que le diable fait, c'est de créer des divisions. Et il n'a pas besoin de se forcer beaucoup parfois. Parce qu'il sait combien c'est facile de faire vibrer en nous des choses qui nous amènent à nous distancer des autres. Mais la communion fraternelle, c'est le moyen par lequel Dieu opère aussi notre transformation. Et on ne peut pas faire l'impasse de la vie d'Église si on veut être transformé. Si on peut rester chez soi, mais on ne connaîtra pas cette opération de Dieu dans notre vie. Ce matin, j'aimerais mettre aussi l'accent sur trois facteurs de division qu'on rencontre dans les épîtres. Et je vois combien ça peut facilement se glisser aussi dans ma vie, ces choses-là. Le premier facteur, c'est ce que Paul appelle les controverses, dans 1 Corinthiens 11, versets 17 et 18. C'est-à-dire les délits d'opinion. 11, 17, 18. En faisant la remarque suivante, je ne peux pas vous féliciter, dit-il aux Corinthiens, car vous vous rassemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions ou des controverses, suivant les traductions. Et je le crois en partie. Il dit que c'est presque inévitable. Verset 19. Il faut bien en effet qu'il y ait aussi des divisions parmi vous afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Alors il y a une part de division, de controverse qui est presque inévitable parce qu'il y a peut-être de faux chrétiens aussi. On voit que l'ivraie est semée parmi le blé, hein, et il y a des séparations qui se font parfois. Mais il y a aussi le danger de discutailler sur des opinions sans fin, sans nuance, et de nous diviser pour des choses finalement qui ne sont pas essentielles. C'est le danger des polémiques dont l'apôtre Paul dit qu'on doit se garder. Dans l'Église primitive, il n'y avait pas un peuple uniforme, hein. Il y avait des païens qui avaient un arrière-plan, des juifs qui étaient très scrupuleux sur la loi, sur les choses à manger, les jours à respecter. Paul dit dans Romains 14, « Faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi sans discuter des opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, qu'il le respecte, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu lui a fait bon accueil. » Je trouve que c'est terrible de se diviser, de se disputer pour des légumes. Mais on peut le faire, parce que c'est tellement important. On doit toujours savoir, quand on aborde un sujet, quelle importance il a sur le plan biblique. Est-ce qu'il est central ou pas? Est-ce qu'on peut avoir une opinion différente sur ce sujet ou pas? Cette semaine, on a eu notre fils Aurélien, et on a failli se disputer pour une opinion. Je lui ai dit, c'est stupide, vraiment. J'ai dû demander pardon. Parfois, on s'accroche pour des petits trucs, hein, de rien du tout, qui n'en valent pas la peine. Deuxième cause de division, on la connaît bien dans 1 Corinthiens 5, je ne vais pas la développer. C'est l'histoire de cet homme qui vivait avec sa belle-mère, la femme de son père, une relation adultère. Ce qui était grave, c'était des graves bien sûr, mais au niveau de l'Église, c'était qu'on laissait ces choses se faire. On ne disait rien. Est-ce que cet homme apportait de l'argent? Est-ce qu'il était important dans l'Église? On ne sait pas. Mais en tout cas, l'Église n'a pas réagi. Et chaque fois qu'on ouvre une porte, qu'on tolère quelque chose qui met en cause le témoignage public, c'est surtout ça, des chrétiens, eh bien, on provoque une division. On crée en tout cas une rupture, quelque chose qui affaiblit le témoignage. Alors l'apôtre Paul demande qu'on exerce la discipline envers cet homme, non pas pour le mettre dehors simplement, mais pour qu'il réfléchisse, qu'il comprenne la gravité du mal qu'il fait, non seulement à Christ, mais aussi à l'Église. Le but de l'exclusion, quand elle est nécessaire, c'est bien sûr de provoquer la tristesse dans le cœur de celui qui est exclu, pour qu'il revienne en lui-même comme le fils prodigue, qu'il demande pardon. D'ailleurs, dans la deuxième épître, Paul invite les chrétiens à pardonner à cet homme, de peur que le diable, il dit, ne l'accable excessivement. Donc nous devons être bienveillants. Nous ne sommes pas là pour juger simplement parce que voilà, tu as fait ça. Mais c'est par amour pour le Seigneur, les uns pour les autres, que nous devons parfois exercer la discipline. Et puis il y a une troisième cause de division. Il y en aurait beaucoup, hein. J'en ai choisi quelques-unes seulement. Dans 1 Pierre 5, qui touche aux responsables des églises. 1 Pierre 5. Quelque chose qui peut briser l'unité, c'est la mauvaise attitude de ceux qui sont les conducteurs du troupeau. Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. J'aime bien l'introduction de Pierre ici, quand il dit, il se présente, moi, ancien comme eux, il pourrait s'arrêter là, témoin des souffrances de Christ. En tant qu'ancien, ce qui le marque, et ce qui l'a marqué, c'est d'avoir vu la souffrance de Jésus. Et à cause de ça, ça a conditionné, ça a marqué son ministère d'ancien. Il sait qu'il a souffert Jésus. Et il n'est pas là pour écraser. Il y a dans le monde évangélique, malheureusement, beaucoup de mauvais bergers qui font ça par argent, par recherche du gain, pas avec dévouement. Ils cherchent à dominer, contrôler les autres, absolument, dans tous les domaines de leur vie. Dieu nous appelle à être les modèles. Paul dit que celui qui est ancien, est doublement redevable de son travail. S'il fait bien son travail, il doit être honoré, mais celui qui faute doit être repris comme les autres. Personne n'est au-dessus de la réprimande dans l'Église ou de la correction. Alors j'aimerais conclure par un point. Quand je dis un point, ma fille, elle a toujours peur que ce soit deux. Mais c'est vraiment un point. Alors, il se peut que nous ayons été déçus en étant membres d'une église. Ça ne m'étonne pas, parce que nous sommes humains. Je peux vous décevoir, vous pouvez me décevoir. Mais ça ne justifie jamais. Et ça ne mérite jamais qu'on se sépare de l'Église, le fait d'être déçu. Pourquoi? Ben, la réponse se trouve dans Éphésiens 5, 25. Marie, dit Paul, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Le Seigneur n'est pas seulement mort pour toi, hein. Il est mort pour l'Église, parce qu'il voulait l'Église. Et se séparer de l'Église, c'est quitter le projet de Dieu. Au moment où Pierre a confessé Jésus, la première fois c'est le premier, tu es le Christ, dans Matthieu 16. Dans Matthieu 16, verset 16, on a cette confession. Matthieu 16, 18, Jésus dit tout de suite après, « Je bâtirai mon Église. » Tu es le premier Pierre, la première pierre de l'Église. Mais je vais te dire, puisque tu confesses mon nom, quel est mon projet ? Je bâtirai l'Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. On comprend que Jésus est prié pour nous et pour l'unité, parce que nous sommes déjà, j'espère que vous en êtes conscients, la nouvelle humanité avec qui le Christ va vivre pour l'éternité. Nous allons vivre ensemble pour l'éternité. Bon, ça vous plaise ou pas, mais c'est la réalité. Hein. Il n'est pas possible d'aimer Jésus et de ne pas aimer l'Église quelque part. Ne pas aimer l'Église, c'est un peu se conduire comme un fils qui prétend qu'il aime ses parents et ses frères et sœurs, mais qui dit qu'il ne mettra plus jamais les pieds dans la maison familiale. Quelqu'un qui dit « Moins je vois mes frères et sœurs, mieux je me porte. » C'est pas possible. Soit on est de la même famille, soit on l'est pas. On apprend à vivre ensemble, à grandir ensemble, à s'aimer ensemble, à se pardonner. Parce que c'est comme ça que le Christ travaille et nous transforme et montre au monde qui nous sommes réellement, des fils et des filles de Dieu qui ont été transformés par le Christ. Je termine avec Philippiens 2, versets 1 à 8, parce que ça met en avant la qualité qui est nécessaire pour cela. Et c'est cette qualité que l'apôtre Paul nous appelle à imiter. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur semblable aux êtres humains, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Voilà, l'apôtre Paul parle de ce qu'on peut trouver en Christ, encouragement, consolation, communion, compassion, tendresse. Mais ces choses sont accessibles seulement si on vit dans cette qualité, ce principe qui a marqué toute la vie de Jésus, c'est l'humilité. Lui qui était Dieu, imaginons, est devenu homme et a servi au milieu de nous, jusqu'à laver les pieds des disciples et mourir pour eux. Voilà, alors que Dieu nous aide à suivre ce chemin, à nous laisser corriger, transformer, pour qu'on puisse vivre aussi l'unité pour laquelle le Seigneur a prié. Amen.